cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Ce nouveau podcast, cobuzz.com, nous avons un invité spécial aujourd'hui, c'est Piotr Michalski, qui ne nous reçoit pas chez lui, mais dans un café parisien, d'où la musique en fond sonore. Merci de répondre à nos questions. Vous publiez en fait pour Virgin Classic un disque consacré à Beethoven, avec Concerto pour piano numéro 1 et les Bagatelles. Comment se décide à chaque fois le choix d'une œuvre et surtout... Avant peut-être ce choix précis sur cet album-là, en général, qu'est-ce qui vous fait décider de vouloir enregistrer, donc de graver, j'allais dire presque entre guillemets pour l'éternité, une œuvre plutôt qu'une autre ?
Et comme vous l'avez dit, graver presque pour l'éternité, c'est-à-dire que ça veut dire que l'œuvre, on doit se sentir tellement proche, tellement... On doit sentir qu'on connaît l'œuvre à un tel point qu'on est... en mesure de le graver et de laisser notre signature dessous et de dire oui, c'est mon interprétation. Et ça, c'est souvent des années de travail. Et donc, si j'ai pas ce sentiment-là, je ne peux pas enregistrer une œuvre, disons. En plus, ça doit être quelque chose pour moi de très personnel, c'est-à-dire que je sens que c'est une interprétation que j'ai. Sur laquelle j'ai travaillé, qui est vraiment à moi, disons, qui est vraiment personnelle, qui est vraiment subjective et du coup unique, quoi. Autrement, pour moi, ça n'a pas trop de sens de faire encore un disque d'une œuvre qui a déjà été enregistrée plein de fois.
Justement, est-ce que par rapport à ça, est-ce que dans votre réflexion globale et sur la décision à prendre, est-ce qu'intervient également les interprétations passées ? D'autres pianistes qui vous sont chers ou pas ? Est-ce que certaines œuvres, vous hésitez à les enregistrer parce que certaines interprétations vous semblent intouchables au point que votre propre interprétation...
Ça ne c'est pas le cas, car je n'écoute vraiment plus de disques du tout. Et quand j'aborde
depuis
une
longtemps.
Nouvelle œuvre, depuis longtemps. Et quand j'aborde une nouvelle œuvre, je n'écoute pas généralement, je n'écoute pas les interprétations ou les disques des confrères qui auraient pu l'enregistrer. Donc, c'est ma façon de me trouver moi-même.
Donc, c'est la partition avant tout, et pas le...
C'est la partition, c'est aussi ce qu'on est. C'est-à-dire, ce qu'on est, c'est tout ce qu'on est. C'est une multitude de choses, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on regarde, ce qu'on vit, ce qu'on mange, ce qu'on... Et surtout, ce qu'on est capable de digérer. Toutes ces informations dont on se nourrit dans la vie, comment on les digère et comment on les transforme et comment on fait qu'elles deviennent à nous, qu'elles deviennent une partie de nous, en fait.
Est-ce que ça sous-entend que certaines œuvres qui vous sont chères, pour l'instant, vous ne vous sentez pas... ce n'est pas le moment de les enregistrer, par exemple. Certaines œuvres, vous pensez les enregistrer, pas pour une question de maîtrise de telle ou telle partition, mais parce que c'est très en phase, comme vous dites, avec votre propre personnalité, avec vous-même, et que ce sont des instants, c'est-à-dire que vous enregistrez telle œuvre à tel moment, parce que c'est tel moment de votre vie. Et...
Oui, est-ce que c'est souvent aussi à un côté en l'occurrence ces deux œuvres que j'ai enregistrées pour ce nouvel album, c'est des œuvres que je joue depuis très longtemps. Les Bagatelles, ça fera presque 20 ans que je les joue, ces Bagatelles. Et à un moment donné, on se dit bon, il serait quand même temps. La même chose avec ce concerto de Beethoven, ça fait tellement longtemps que je le joue que c'était pas le moment où je me suis dit, il faut que je fasse ça maintenant, ça fait plusieurs années que j'y pense. Comme je le joue depuis très longtemps.
Par rapport à l'enregistrement lui-même, est-ce que vous êtes assez méticuleux ? Vous êtes, la prise de son, c'est quelque chose qui est très important pour vous ? Vous êtes assez perfectionniste ou...
Je suis maladivement perfectionniste. Pas par rapport à la prise de son, car je dois dire, je n'y connais pas grand-chose. Et là, je fais confiance aux ingénieurs de son. Et parfois, je dis mon avis, mais... Mais je ne suis absolument pas compétent dans la matière, disons. Mais là où je suis vraiment perfectionniste, c'est dans le nombre de prises et pendant les sessions, et surtout après en post-production, c'est-à-dire le travail de montage, qui pour moi est essentiel.
Est-ce qu'il y a des différentes sensations quand justement vous enregistrez face devant un public, même si vous êtes seul avec votre piano ou avec un orchestre, ou quand vous êtes dans un studio où il n'y a pas de public autre que les ingénieurs du son, etc. Est-ce que votre isolement intérieur est le même ou il y a quand même des choses différentes?
C'est très différent. Mais disons, je n'ai pas fait de disque en live jusqu'à présent. Donc je ne connais pas la sensation de faire un disque en live. En effet, parfois on a des enregistrements publics de concerts qui passent à la radio, qui peuvent passer à la télé, qui sont diffusés, mais pas sur un disque. Et c'est vrai qu'une situation de concert n'a rien à voir avec une situation de studio où on est seul, où on arrive un petit peu quand on veut, on a tout notre temps devant nous et voilà, on répète comme ça un mouvement, une œuvre autant de fois qu'on veut, sans trop de contraintes vraiment, avec quand même une contrainte de temps, dans le sens où on ne peut pas enregistrer toute sa vie. Je veux dire, on a ces 3, 4, 5 jours, les sessions se terminent et il faut que la chose soit, comme on dit très vulgairement, en boîte. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas fait, ça ne sera plus là, ça ne sera plus dedans. Après, on peut plus rien. Un concert, c'est très différent. C'est vraiment le moment, la seule possibilité de jouer dans ce moment, dans cet instant, dans cette salle avec ce public, et ça ne se répétera plus jamais. Et ça n'a rien à voir.
Qui vous arrive de réécouter vos anciens enregistrements ou pas trop souvent?
Ça m'arrive, pas souvent. Disons, quand je travaille sur un montage, bien sûr, j'écoute beaucoup, et quand le montage est fait, et terminé, là j'ai un grand plaisir à écouter, surtout si je suis content du résultat, mais ça dure pas longtemps. Je passe assez vite à autre chose et après je dois dire que j'ai même une réticence à m'écouter.
Vous trouvez tout de suite des erreurs, des choses qui vous déplaisent, vous avez tout de suite tendance à remarquer éventuellement?
C'est même pas ça, j'ai presque peur justement d'une confrontation avec quelque chose que j'ai trouvé réussi et beau, et comment je le verrai aujourd'hui.
Ce perfectionnisme, vous l'appliquez aussi, j'imagine, à l'interprétation. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une interprétation, quelque chose de parfait? Comment en musique on arrive à dire, ça y est, c'est ça? Est-ce que c'est impalpable?
La perfection n'existe vraiment pas. La perfection, c'est la mort. Et tout ce qu'on peut, c'est parfois effleurer du petit doigt la perfection. C'est-à-dire qu'on peut apercevoir petit moment de plénitude ce que c'est que la perfection, mais c'est vraiment des moments, c'est des moments de grâce, disons. Il faut aussi dire que ces moments de grâce, on les paye cher aussi après, parce que comment on fait pour continuer de vivre une fois qu'on a touché à ça? Il faut bien continuer notre existence qui est quand même pas parfaite. Et c'est pas souvent évident après avoir senti ça, n'est-ce pas? Parce qu'on veut quelque part, on voudrait recréer cet instant de tel bonheur, de telle jouissance, de telle plénitude que c'est presque un sentiment de mourir, de mort, sauf qu'on continue à vivre.
Là, vous avez déjà, ce sont des sensations que vous avez déjà effleurées?
Bien sûr, oui, beaucoup de fois, oui.
Dans des contextes inattendus parfois?
C'est la plupart du temps inattendu. Si on veut à tout prix vivre un tel moment, c'est presque une garantie qu'on ne le vivra pas. C'est généralement, ça vient dans le moment le plus inattendu. Mais ceci dit, on peut préparer ces moments. On peut préparer ça souvent par un tout simplement un travail. Un doute. Et quand même, je dois le dire, une souffrance qui est liée à ça, à ce travail et à ce doute.
Vous avez étudié dans différents pays, de différents continents. Est-ce que ces différentes écoles, justement, ça vous a aidé peut-être à ne pas vous rattacher à une école et à essayer justement de toucher un peu toutes les différentes approches?
C'est sûr que je ne fais pas partie d'une école, un petit peu par...
C'était politique presque.
À part le destin, ouais. par le hasard. et un, quand même un petit peu volontairement plus tard. Où, c'est difficile de ne pas faire partie d'une école, en même temps c'est une bénédiction, je trouve. Car on peut vraiment se dire, je suis moi-même, je viens un petit peu de nulle part.
Est-ce qu'on s'en rend compte facilement, ça? C'est-à-dire, c'est facile d'être son propre et son meilleur juge?
Ça, certainement pas. C'est-à-dire, on n'est probablement pas son meilleur juge, mais qui est le bon juge dans ce cas-là? C'est-à-dire, on est bon juge de certaines choses, et on doit être bon juge de certaines choses, sinon on n'arrive à rien. Si on se fie à l'avis d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'un public, je pense qu'on n'existe plus. Mais en même temps, moi je pense que c'est un difficile équilibre entre son jugement à soi et quand même un respect que quelqu'un peut juger la façon de façon différente. Avant, j'avais du mal à accepter ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut apprendre à que quelqu'un peut juger mon interprétation d'une façon que je ne comprends pas, mais que j'ai quand même du respect pour ce jugement. Que ce quelqu'un voit ça d'une perspective différente, d'une manière différente. Il a un vécu différent et c'est son droit le plus légitime.
Vous êtes retrouvé confronté face à des analyses qui vous ont dérouté? Puis personnes qui vous ont...
Ah ben la plupart du temps, oui. Sauf que ça me déroute même plus, je suis habitué.
Vous avez étudié, travaillé avec on va dire de grands pianistes. Je ne vais pas vous demander la liste de ce que vous gardez de chacun, mais si j'en prends deux au hasard, je ne sais pas, Murray Peraya et Léon Fleischer, ces deux personnalités, qu'est-ce que chacune vous a... Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui? Qu'est-ce que chacune vous a apporté spécifiquement?
Ça, c'est très très difficile à dire spécifiquement. Moi, je pense que... D'ailleurs, je pense que c'est une grosse erreur, et je vois ça parmi beaucoup de jeunes pianistes qui vont étudier avec un tel professeur, avec un tel pianiste, avec un tel maître, entre guillemets, et justement avec un pour apprendre à jouer Chopin, avec un autre pour apprendre peut-être à jouer Debussy, avec un troisième pour comprendre la forme beethovenienne. Et dans l'art, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe et tout ça s'entremêle. Tout ça fait partie d'un ensemble. Tout ça doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, digéré et à un tel point que ça commence à faire vraiment partie de nous. Et on ne peut pas comme ça isoler les choses. Ah, je vais aller chez un tel apprendre ceci. On passe quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On se dit, voilà, mission accomplie, j'ai appris. Ça ne se passe généralement pas comme ça, je trouve.
C'était plus, moi, en termes de... ce que ces rencontres musicales, mais également humaines, j'imagine, évidemment, avec le recul, vous ont laissé plus que la raison pour laquelle vous avez travaillé aujourd'hui. Quand vous pensez à ces séances avec Peraya ou avec Fleischer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste particulièrement?
C'est plus quelque chose de précis. Pas quelque chose de précis. Je dirais pas. Plus une aura de la personne, une pensée générale, quelque chose que la personne dégage. Mais je ne pourrais pas dire une chose précise, technique, où je me suis dit « Ah, cette personne m'a appris ça ».
Quand on se retrouve aux côtés, au début, de personnalités de cette envergure, quand on étudie la musique, l'histoire de la musique, des interprétations également, aujourd'hui vous dites que vous écoutez plus de 10, comment on arrive à, j'allais dire, quand on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on se retrouve du côté de ces gens-là, à se placer soi-même, à placer son style, sa personnalité musicale? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on y préfère ne pas y penser du tout, en étant soi-même, en jouant, en enregistrant, et puis voilà, et d'autres le feront? Où est-ce que vous arrivez à vous situer, à vous placer, à vous positionner? Vous avez évoqué le fait de ne pas d'être attaché à aucune école. Comment vous voyez tout ça?
Ben, je trouve que surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on est tellement submergé d'informations de partout, je pense qu'il est difficile de rester soi-même. Et moi, je pense que dans l'art, généralement, mais en tout cas, c'est sûr, dans l'art de l'interprétation musicale, ce qui est important, c'est le fait qu'une interprétation soit unique. Et chacun de nous est unique, chacun de nous est différent. Et rester fidèle à cette différence, rester fidèle au fait que je suis qui je suis, et jamais il n'y a eu quelqu'un comme moi, et plus jamais il n'y aura quelqu'un comme moi. Et ça, c'est un sentiment merveilleux. Mais mais je trouve qu'on vit dans un monde où, quelque part, tout le monde veut être pareil, où les choses se ressemblent de plus en plus, où les saveurs se ressemblent de plus en plus, les odeurs se ressemblent de plus en plus, la pensée, le sentiment devient standardisé. Et je trouve que c'est devenu aujourd'hui presque un défi d'être tout simplement soi-même.
Et parce qu'il y a un combat permanent, quasiment quotidien ou
Je trouve qu'il y a un combat permanent de, en fait, de s'isoler. C'est ça qui est, moi, je pense que pour se préserver aujourd'hui, il faut s'isoler. Bon, ça, c'est ma méthode. Maintenant, je ne veux pas dire que je recommande ça à d'autres ou... Mais moi, je perçois ça comme ça.
Cette affirmation de sa personnalité, de côté unique, etc., est-ce que vous le ressentez plus quand vous empoignez certains compositeurs que d'autres, certaines partitions que d'autres, ou c'est une sensation, quelque chose de général, ou est-ce que...
Non, c'est une... Là, dans l'interprétation musicale, ce n'est pas général. C'est en relation, même pas à un compositeur, mais en relation à une œuvre concrète, surtout. C'est pour ça que moi, je le dis ouvertement, j'ai un répertoire assez restreint, et c'est quelque chose que je ne compte pas élargir à tout prix. Moi, je joue une œuvre quand je suis absolument convaincu que je peux la traduire, je peux l'exprimer de façon à ma façon unique. Si je n'ai pas ce sentiment, je ne peux simplement pas le faire. Ça n'a pas de sens pour moi.
Et vous ne pensez pas que certaines œuvres, justement, on les découvre à certains instants de sa vie et qu'on ne peut justement les...
Bien sûr, absolument. Donc, ça, à chaque œuvre, son instant. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on planifie. Quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, je pourrai jouer cette œuvre, j'aurai la maturité pour jouer cette œuvre. Parfois, à l'âge de 20 ans, on a la maturité de jouer les choses les plus matures, entre guillemets, et on devient de plus en plus frivole.
Variation Diabelli, par exemple.
Par exemple, qui ont cette réputation d'être tellement compliquées, qui pour moi n'ont jamais été. Et pour moi, jouer une œuvre très frivole, une valse de Chopin, est nettement plus compliqué que de jouer les Variations Diabelli. Donc c'est, tout ça, c'est très très personnel.
S'il y a des partitions, justement, qu'il y a 10, 20 ans... vous touchez peu et aujourd'hui, au contraire, vous bouleverse ou vous interpelle et vous prenez des enregistrements.
C'est sûr que Szymanowski, par exemple, est un compositeur qui, il y a encore 10 ans, me donnait la nausée, je dois le dire. Et c'est devenu une révélation pour moi. C'est un des compositeurs que j'adore le plus et que j'essaye de jouer aussi souvent que possible. Et ça n'a pas changé maintenant depuis presque 9 ans.
Si on prend cet exemple précis, qu'est-ce qui fait justement qu'on bascule, j'allais dire, de la haine à l'amour d'une partition?
Je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir, mais c'est... qu'est-ce qui fait que se passe ce basculement? Je pense que...
Vous avez parlé du travail tout à l'heure, est-ce que le travail...
Le travail, mais pour... Je pense qu'il doit y avoir quelque part, avec Szymanowski quand même, malgré ma... répulsion, je me suis mis à le travailler. Donc il y avait quand même une raison, malgré ma répulsion, que je me suis mis au métope de Szymanowski, à ce triptyque, et que je me suis mis à travailler, à le lire. Et Dieu sait que c'est pas facile à lire. Mais je pense que instinctivement, quelque part au fond de moi-même, je sentais cette nécessité, même si, objectivement, dans ma tête... je n'aimais toujours pas ça. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est de redescendre quelque part dans le fond de soi-même et être fidèle à ce côté comme intuitif qu'on a tous. Et cette corde d'intuition qui vibre quand même en nous et qui prend rarement le dessus dans notre vie, mais qui, je pense, dans l'art est absolument indispensable. Et entendre parfois cette corde, qu'est-ce qu'elle nous dicte, quelles sont ces pulsions qui nous dictent peut-être qu'on devrait se mettre à une telle musique, un tel compositeur, alors que même parfois dans la tête, on se dit, en fait non, ça ne m'intéresse pas.
Quand vous, on pourrait utiliser peut-être le mot de redécouvrir une œuvre comme ça, comme celle-ci, qui au contraire au début vous répulse, quel impact cela a sur votre jeu, sur votre interprétation en général?
Bah, l'impact est énorme, c'est-à-dire ça change absolument tout. on se sent comme au bord d'un navire et on vient de découvrir un nouveau continent. C'est le sentiment le plus merveilleux qu'on peut avoir. De découvrir un monde plus large qu'on... Disons, c'est comme si l'horizon devenait beaucoup plus large, souvent, soudainement. Ça, c'est toujours un sentiment merveilleux.
Dans les pianistes, je crois que vous vénérez, il y a Richter notamment.
Oui.
Et je crois que vous l'aviez vu en répétition, dans une anecdote où vous l'espionniez plus ou moins, vous étiez caché, vous
le vendant qui avait fait ça. Oui, c'était la première fois que je devais l'entendre. Et pour moi, c'était un grand événement. Et je voulais entendre la répétition. Et j'étais caché dans la salle. Et il n'est pas venu répéter. Il est venu, il a joué une note.
Vous vous souvenez quelle note ?
Non. Non, c'était par rapport au choix du piano. En fait, ils ont mis, je crois, 4 ou 5 pianos à disposition. Il y avait l'accordeur qui attendait, tout nerveux. Moi, j'étais couché entre les sièges de la salle. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix, je me suis un peu levé, j'ai vu Richter qui entrait, qui a regardé tous ces pianos de façon très... Et puis là, comme ça, il a touché la note d'un piano. Il a dit, ah, celui-là, ça va aller. Il a juste touché une note. Ouais.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que je n'écoute plus de disques. Est-ce que ça ne vous manque pas justement d'écouter tout simplement des interprétations, des lectures d'œuvres par Richter ou d'autres où vous les avez tellement écoutées que finalement il suffit d'appuyer sur un bouton dans votre tête et elles défilent sans même écouter le disque.
Je les ai absolument énormément écoutées, peut-être trop quand j'étais plus jeune. J'écoutais énormément. Je comparais qu'est-ce que j'aime moins, etc. Et il m'arrive très rarement d'écouter une interprétation, mais disons que ça a un tel impact sur moi et c'est ensuite quelque chose qui travaille dans moi pendant des semaines entières, donc je suis très très réticent pour cette raison. Pour moi, c'est difficile d'entendre une œuvre interprétée et comment je me retrouve avec ça ensuite,
n'est-ce pas? Oui,
qu'est-ce que j'en fais de cette information que j'ai reçue? Et je veux pas être, c'est un mot un petit peu grossier, mais je ne veux pas être contaminé par une interprétation non plus. Je veux pas que ça m'enlève. J'ai remarqué une chose avec l'âge, c'est que c'est terrible, c'est terrifiant en même temps ce que je veux dire, mais c'est que c'est d'écouter une interprétation et surtout d'être impressionné, ravi par une interprétation, quelque part m'enlève mes forces créatrices. J'ai remarqué.
Est-ce que ça veut dire également que vous n'êtes pas tenté ou intéressé de savoir ce que font vos confrères actuels, plus jeunes ou comment ils vont?
Non, pas vraiment. Non.
Donc si quelqu'un vous dit « Ah, est-ce que tu as entendu ce pianiste génial ?» Votre premier réflexe, ça ne sera pas d'aller l'écouter en concert ou d'acheter le disque.
Pas. Après, ça m'arrive d'écouter. Et après, parfois, c'est vrai, on aime bien. Parfois, on est déçu. Parfois, on ne comprend pas pourquoi.
Oui, bien sûr.
Non, je vais extrêmement rarement au concert. C'est très rare.
Sur l'album que vous publiez, vous faites également la direction.
Oui.
La direction, c'est quelque chose qui vous...
qui ne m'intéresse pas en soi vraiment. C'est-à-dire là, c'est par rapport à certaines œuvres et certains projets. Et l'idée de faire une interprétation cohérente sans cette division entre le chef et le soliste, disons. Mais être vraiment un chef d'orchestre, c'est un métier. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'étudie, qui... ça ne se fait pas tout seul comme ça. Peut-être un jour, je le prendrai plus au sérieux, mais il faudra vraiment que je...
Mais c'est pas la tentation, c'est pas un signe de la tentation vraiment d'essayer de...
Pas pour l'instant, non. Non, il y a tellement à faire au piano, vous savez. Et c'est tellement difficile de le faire bien, déjà.
Est-ce que justement vous regorgez de projets déjà dans votre tête, tant d'enregistrements que d'œuvres à jouer en public?
Je regorge toujours de projets. Excusez-moi, j'ai mis.
Non, pas de problème.
Mais ensuite, faut-il trouver le temps de réaliser ces projets et de les réaliser bien? Et je trouve qu'on a si peu de temps. Les journées passent tellement vite, on a si peu de temps. Et plus on avance dans l'âge, plus ça passe vite et moins on a de temps. Et on passe son temps à plein de choses idiotes, au téléphone, aux choses pratiques.
Aux interviews.
Non, mais toutes les choses, prendre l'avion, être à l'heure, prendre ses billets. Enfin, c'est dingue comme ces journées passent et comme finalement il y a peu de temps pour le travail purement créatif. Moi, je suis très désolé de ça, vraiment. Je compte changer ça. Je compte changer ça, c'est-à-dire quand même jouer moins de concerts.
La composition, l'écriture,
ça m'a beaucoup tenté. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup fait. Je pense que je n'ai pas trouvé mon langage. Alors, est-ce que c'est un manque, encore une fois, de temps et de disponibilité, ou tout simplement un manque de vraiment quand même de désir intérieur? Ça, je ne sais pas.
Quand on enregistre un disque, c'est pour qu'il y ait un public qui l'écoute. Le disque actuellement connaît ce qu'on peut appeler une crise. Il y a des nouveaux moyens d'accès à la musique, d'écoute de la musique, des chargements, etc. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui vous intéresse, la musique que vous jouez, certes en public, mais la musique enregistrée arrive à un public, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous concerne, comment vous...
Non, je ne me pose pas trop ces questions. On entend partout parler que la situation n'est pas facile et qu'on essaie plein d'autres moyens, mais franchement, c'est pas quelque chose qui me passionne.
Quand vous enregistrez un disque, quel est le but initial au-delà de... C'est que des gens l'écoutent, les gens l'achètent, c'est de...
Le but initial, c'est de laisser quelque chose laisser quand même une trace de notre activité qui soit un tout petit peu palpable et qui reste, et comme je l'ai dit tout à l'heure, sous laquelle on peut signer son nom et on dit oui, c'est un peu mon interprétation. Après, bien sûr, si le disque est distribué, s'il est écouté, c'est très bien, c'est tant mieux, je veux dire. Mais la démarche initiale, c'est quand même de laisser quelque chose qui, selon moi, a une valeur subjective, une valeur unique et subjective. Oui.
Vous avez dit ne pas écouter de disques. Est-ce que ça concerne également des musiques autres que les vôtres? Est-ce que vous écoutez, je sais pas, du jazz, du rock, des musiques du monde, d'autres choses, de la chanson? Non, pas vraiment.
Non, je ne suis pas très intéressé, même, je dirais, dans la musique autre que classique.
Ça a toujours été comme ça ou...
J'ai aimé le jazz à une certaine époque, et j'ai aimé les Beatles quand j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, la pop, c'est quelque chose qui... Je ne peux même pas dire que ça ne m'intéresse pas. C'est tellement, tellement étranger que peut-être je devrais, mais c'est un monde totalement étranger. Et la chanson, c'est totalement étranger aussi.
Le jazz, vous avez dit que vous étiez intéressé, non plus pareil.
De moins en moins, oui.
Pour vous ressourcer, vous lisez, qu'est-ce qu'il y a, des puits dans lesquels vous puisez davantage que d'autres pour...
Bien sûr, la lecture, faire la cuisine, vous savez, découvrir une œuvre d'art, j'adore l'architecture, une rencontre avec une personne de qualité, une belle discussion, tout ça, ça nourrit, c'est sûr, ça ressource.
C'est quoi le dernier plat que vous avez fait? En cuisine.
Le dernier plat, c'était aujourd'hui à midi, c'était des pâtes soba, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des pâtes japonaises à base de sarrasin.
C'est pas comme le udon? Non, c'est plus...
Non, les udon, c'est différent. Les soba, c'est un peu brun.
D'accord, ok.
C'est très fin. Et j'ai reçu des soba extraordinaires du Japon, avec 100% de sarrasin, justement. C'est très rare. Qu'on fait juste bouillir et on fait un petit bouillon froid à côté. Ça s'appelle zaru soba. Et en fait, c'est des pâtes qu'on mange froides et qu'on trempe dans le bouillon et on les mange. C'est absolument délicieux.
Bien. Voilà, donc on va peut-être vous retrouver d'ici une dizaine d'années à la tête d'un restaurant.
Je ne pense pas. Je voudrais pas que ça devienne un métier. Pour moi, la nourriture, ça reste un plaisir à faire pour soi-même, pour ses proches et à partager avec ses proches. Mais pas que ça devienne une routine de tous les jours, non.
Bien.
Bien, merci Piotr Andrzejewski. Je rappelle que donc, vous sortez chez Virgin Classic Concerto pour piano numéro 1 de Beethoven et, ainsi que des bagatelles. Merci beaucoup.
Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.